passage de la Bible, c'est très important de regarder dans quel style ce passage est écrit. Il y a des passages absolument historiques. Par exemple, le récit de la mise de Jésus sur la croix, c'est un fait qui a existé. Il y a d'autres passages qui sont symboliques. Il y a des paraboles, par exemple. Et là, juste après le baptême de Jésus et avant son ministère, Matthieu nous raconte les tentations de Jésus. Cela ne s'est pas passé comme c'est raconté. Il n'y a pas un drone qui prend Jésus, qui le met en haut du temple, ou un drone ou le diable, qui ensuite l'emmène en haut du mont de montagne. Matthieu nous dit sa foi. Il écrit une parabole. Il écrit une parabole pour nous dire quelque chose de très réel. Hein, ce qui est réel, ce n'est pas que Jésus se soit retrouvé en haut du temple. Ce qui est réel, c'est la foi de Matthieu. Matthieu nous dit, Jésus est pleinement Dieu, pas de problème. Mais il n'a pas triché, il est pleinement homme aussi. Et Jésus, comme chacun d'entre nous, a été tenté comme tout homme. Il a eu à mener le combat contre le mal dans son cœur. On trouve à d'autres endroits de l'Évangile, quand Matthieu raconte ça, avant de nous raconter le ministère de Jésus, c'est pour nous dire dans toute la vie de Jésus, il y a eu ce combat. Et on en a des traces. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, il multiplie les pains et tout le monde veut le faire roi. Et Jésus s'en va. Il ne veut pas être pris à tort. Comme le MacGyver qui change tout, qui transforme tout. D'autres traces. Pas longtemps avant, quand il monte à Jérusalem, il dit à ses disciples, au dire des hommes, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et vous, que dites-vous? Et Pierre, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est pas toi qui as trouvé ça, c'est le Père qui te l'a révélé. Et là, Jésus dit, mais attention, je vais souffrir beaucoup, je vais être crucifié, et le troisième jour, je ressusciterai. Et là, Pierre, qui aime beaucoup Jésus, dit, Jésus, fais pas ça. Ce que ça ne t'arrive pas. Et Jésus se retourne et dit, arrière Satan, les mêmes mots que dans le récit d'aujourd'hui. Quand il est encore sur la croix, il y a des gens qui disent, ah, c'est des fils de Dieu, descends. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas eu Jésus en haut du temple ni au haut d'une montagne, mais Matthieu, par ce récit, nous dit et nous fait contempler Jésus. Il s'est vraiment fait l'homme, il n'a pas triché. Et nous avons beaucoup de mal, chacun, chacune, à croire que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme en même temps. Et vraiment, il nous est donné de le contempler. Et Matthieu nous dit d'où Jésus tenait sa force. Il nous dit, il était conduit par l'Esprit Saint. Dans son combat contre le mal, Jésus se laissait conduire par l'Esprit Saint. Et comment faisons-nous pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint? Nous prions. Nous lisons la parole. C'est ce qui nous aide à laisser l'Esprit de Jésus nous conduire tout du long. Dans la première tentation, le diable dit « ta faim ». Alors transforme la pierre en pain. Et Jésus s'appuie sur la parole de Dieu. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui aide à lutter contre le mal, c'est sa connaissance de la parole de Dieu qui lui est dite. Mais la deuxième tentation, le diable, c'est-à-dire le mal en Jésus, la tentation en Jésus, comme en chacun de nous, elle va utiliser un verset de la parole de Dieu. Il est écrit qu'il va te protéger, alors jette-toi du temps, pas de problème. Et ça nous arrive d'utiliser une parole que nous connaissons, mais finalement pour faire le mal, en la tirant de son contexte. La parole n'est pas une garantie de tout risque. Et troisième tentation, tu vas m'adorer. Là, tu auras tout à ta disposition. Et Jésus dit, arrière Satan. cœur. Si on arrive à dire tout ça, c'est le mal, on a déjà gagné la bagarre. Arrière Satan, ça, c'est pas juste. Et si on arrive à discerner ça et à dire, allez, j'arrête, je m'éloigne. On voit aussi qu'une fois que Jésus a réussi à nommer le mal, eh bien, les anges le servent. Hein, le contrôle est passé. C'est une expérience que nous faisons tous. Je viens maintenant à la première lecture. C'est l'histoire de Adam et Ève qui sont tentés. Il y a le serpent qui leur dit, t'as vu, on t'a dit que tu ne pouvais rien manger. Non, non, juste cet arbre-là. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui parle? Vous en avez vu?
Non.
Est-ce que ça existait autrefois, un serpent qui parle? Non plus. Pour comprendre ce texte de la création, il n'est pas écrit direct depuis Dieu. C'est des gens, peut-être ils ont fait une messe assemblée par le ciel comme on fait, comme on va faire bientôt, et ils réfléchissent. D'où vient que je sais que je suis aimé de Dieu, que je sais que je suis créé pour aimer, que j'ai vraiment de l'amour dans mon cœur, mais quand même, de temps en temps, ça dérape sérieusement. De temps en temps, je me laisse prendre par le mal. Comment ça se fait? Alors ils essayent de réfléchir là-dessus. Et pour les plus anciens, vous vous souvenez qu'il y avait une émission de télévision il y a quelques années, j'ai déjà pris de l'âge, il y a pas mal d'années, qui s'appelait le Bébête Show. Et là, c'était pour se moquer des hommes politiques. Et ils avaient mis un animal à chaque homme politique. Alors Mitterrand, il avait mis une grenouille parce qu'il ressemblait un peu à une grenouille. Raymond Barre, c'était un ours. C'était l'ours de... Voilà. Alors, eux, ils se disent, on va faire Bébé de Chaud. Il faut qu'on trouve une marionnette qui représente le mal dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme animal? Ils se disent, le serpent. Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent va très bien pour le mal? Il se tient pas debout. Quelqu'un qui se tient debout, il a les pieds profondément dans le ciel, dans la tête, il est tourné vers Dieu. Lui, il rampe. Et il avance pas droit. Il nous voit. Et quand on veut faire mal, on fait comme ça. Et il parle comme nous quand on veut faire mal. Pareil, exactement pareil. Je prenais ce texte avec les quatrièmes tous les ans. Et on leur disait, vous êtes des archéologues. Enfin, pourquoi le serpent? Il y en a un qui dit, il hypnotise sa proie. Et sa morsure est brûlante. Il est question d'un arbre interdit. Il n'y avait pas un arbre spécial dans le jardin. Il y avait que je ne peux être heureux que si je me reçois de Dieu. Que si je ne suis pas le maître de tout. Que si j'ai conscience d'être créé pour aimer, d'être aimé et appelé à aimer. Et le serpent se dresse, il parle de ce qui se passe dans nos cœurs. Ah, il y a le jour où je me marie, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est la plus belle, elle est extraordinaire. Puis le temps passe, puis je vois qu'il y en a d'autres. T'es sûr? C'est vraiment interdit? T'as vraiment interdit? Non, il m'a dit, celle-là, mais pas les autres. T'es sûr? Mais non, c'est parce qu'il a peur. Hein? Et on laisse le mal venir à nous. On regarde bien. Oh, mais les autres sont pas mal du tout. Et on se laisse prendre. Et le jour où on tombe, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas Dieu qui nous envoie une punition. Il y a une douleur infinie dans notre cœur. Parce que si à l'instant de joie, il ne dure pas. Tout d'un coup, on a cassé l'amour dont on vivait. Hein? Vous comprenez ça? Et c'est très important de lire la Bible comme ça. Alors c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne nous a raconté qu'une partie du récit du chapitre 2 et 3 de la Genèse, parce que ça continue. L'homme, il se rend compte qu'il a tout cassé. Hein? Il a voulu être maître de tout. Il ne se reçoit plus de Dieu, il ne se reçoit plus des autres. Il croit qu'il connaît tout. Et il se retrouve tout nu. Et il est vraiment mal, comme on est mal quand on a fait un gros, une grosse entaille. Il y a Dieu qui dit, tu es où? Tu es où? Hein, comme nous, tout d'un coup, il y a notre conscience qui nous fait, tu as fait quoi? Ah ben c'est la femme, elle m'a donné le fruit. Mais la femme, ah c'est pas moi, c'est le serpent. La même manière de ne rien assumer. Et c'est pas Dieu, c'est pas vrai que les douleurs de l'accouchement sont une punition de Dieu, c'est la condition humaine. C'est pas vrai que le travail, c'est une punition de Dieu, c'est la condition humaine. Mais c'est une très très belle analyse de ce qui se passe dans nos cœurs. Si Jésus est capable de résister à la tentation, nous, il nous arrive d'y céder. Et Paul peut nous aider, c'est la deuxième lecture. Paul nous dit, la loi, elle nous permet de savoir ce qu'elle vient. Elle nous permet aussi de savoir que l'on n'y arrive pas. Mais quelque part, quand je deviens, quand j'ai la loi de Moïse, ben je me rends compte que je n'aime pas vraiment bien. Je sais dans quelle direction je dois aller, mais je n'y arrive pas avec mes propres forces. Et Paul nous dit, c'est Jésus qui nous sauve. Hein, c'est le don de sa vie, c'est sa mort et résurrection qui nous réintroduit dans la communion parfaite avec le Père, avec nos frères et sœurs. Nous sommes au début du carême, et chacun, chacune, nous sommes invités à renouveler notre baptême. Et puis il y a ceux qui vivent leur dernière ligne droite, qui cet après-midi seront à Créteil. Et le mec leur demandera, est-ce que tu es prêt à te mettre en marche pour le baptême? Je t'appelle. Ils diront, me voici, c'est des yeux. Non, non, ça s'arrêtera. Mais on peut penser qu'ils vont dire, me voici. Et pendant tout ce temps de carême, c'est à cause des catéchumènes que le carême avait été inventé au départ. Pendant tout ce temps de carême, ils vont dire « Je renonce à une vie sans l'Évangile. Je renonce à une vie sans Jésus. Je veux vraiment qu'il marque ma vie. » Et nous qui sommes baptisés depuis plus longtemps, nous sommes invités à renouveler notre baptême. Et je reviens sur ce que je disais le mercredi soir. Les gens aimeraient bien des normes très strictes. Qu'est-ce qui est permis, défendu en carême? Ça c'est défendu, ça c'est permis. Il faut avoir prié à telle heure avec telle formule. Vous lisez l'Évangile, c'est pas du tout écrit comme ça. Ah, les pharisiens, ah, ils sont en train de manger ce qui est interdit et toi tu fais des guérisons le jour du sabbat. Et Jésus dit, c'est pas la règle. C'est pas du permis défendu automatique et on a le salut. Chacun, chacune, en ce début de carême, nous sommes invités à nous demander, à nous mettre d'abord devant l'amour fou de Jésus. Devant le don de sa vie pour nous. Et à nous dire, bon, quand je découvre à quel point il nous aime, et que je fais une expérience que je ne suis quand même pas au top, surtout, quel effort j'aurais besoin de faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'essaye d'améliorer dans ma vie? Qu'est-ce qui me coupe des autres et de Dieu? Hein? C'est pas forcément une question de manger ou pas. Vous nous regarderez quand on est dans la rue en train de pousser de l'ando, à ne pas parler à notre bébé et à être dans le smartphone, à traverser sans rien regarder, ou au volant pareil. C'est trois fois plus de morts. Avec le smartphone, on est tous plus forts que tout le monde, mais il y a trois fois plus d'accidents liés au smartphone. Vous nous regarderez dans un repas paroissial. Très vite, tout le monde est dans son smartphone. Le voisin à droite, à gauche, aucune. C'est un exemple, il y en a d'autres. De quoi, sur quoi faudrais-je faire effort? Quand le pape a écrit son message de carême, il nous en propose deux. Le premier, c'est de lire la parole de Dieu. Certains d'entre vous ont pris cette habitude de la lire tous les jours. Quel cadeau! Mais pour tous, il y a cet appel-là. Et je vous rappelle l'application AELF. Qui permet d'avoir les lectures du jour qui sont lues dans le monde entier en l'Église catholique. Et en 2 ans, en 1 an, on lit tous les évangiles. En 2 ans, on lit 2 fois tous les évangiles et en plus, tout le Nouveau Testament, toutes les lettres de Paul, etc. Et de très grandes parties de l'Ancien Testament. faire un effort de prière, de donner plus de temps à la parole, noter la parole de vie, partager, chercher quelle lumière pour moi aujourd'hui, s'il n'y a pas de doute que ça aide. Nous appelle aussi à nous méfier de ce que nous disons, parce que si on se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la bouche des hommes, ce n'est pas toujours très nourrissant. Vous regardez les réseaux sociaux et toutes les insultes et toute l'agressivité, et la rapidité qu'on a à critiquer un tel, un tel, un tel, nous dit, tiens, on pourrait faire un jeûne de commérage. On pourrait chercher à avoir une parole qui donne confiance, qui donne la vie. T'es capable, vas-y, mais c'est super. Lève-toi. Voilà, dans un instant de silence, nous nous préparons à ce combat contre le mal, contre le serpent, entre guillemets. Nous nous demandons, mais quelle résolution pour ce carême, quel effort je vais faire pour que quand on arrive à Pâques, qu'il y ait une grande joie dans mon cœur. Thank you.